me fait plaisir qu'on se fasse une petite balade en forêt tous les deux. Ben, mais pourquoi que tu prends le poste avec toi?
On va quand même pas louper l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Lundi matin, c'est toujours un peu bancal, les chaussettes dépareillées, le café tiède. On essaye de se remettre en route, mais on sait pas trop où on va finalement. Et si cette fois, au lieu de courir après le temps, on y allait un peu mollo, considérons ce lundi comme une balade. On regarde le ciel, les portes un peu que l'on croise. Et aujourd'hui, justement, on va pousser une de ces portes, celle de Géraldine Charron, une artiste qui, avec des fils, des morceaux de vie et des gestes simples, tisse des mondes. Elle répare ce qui semble cassé, elle rapièce des histoires qu'on croyait oublié et elle nous invite à rencontrer René. Justement, elle est avec moi aujourd'hui. Bonjour Géraldine, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour à tous, merci.
Alors dans quelques instants, on va parler de cette exposition qui est visible depuis le 5 février et ce jusqu'au 23 février au Musée École de la Périne à Laval. Son nom c'est René, ce qu'elle abrite, et donc on va découvrir et l'univers de cette exposition et votre univers en général, comment est-ce que vous travaillez. Donc ça, ce sera en première partie d'émission dans l'entretien du jour. Et en studio, bien comme chaque jour à mes côtés, Maxime, on te retrouve, et tout à l'heure justement on te retrouve pour la revue de presse du Haut-Anjou. Comment vas-tu aujourd'hui?
Bonjour à tous, super, et toi Margot?
Eh bien ça va très très bien aussi, et surtout puisqu'en seconde partie d'émission, on pose nos yeux, ou plutôt on tend l'oreille vers la scène musique locale avec Nicolas Moreau, qui aujourd'hui nous fait un focus sur la scène rap locale. On terminera en pleine actualité avec Alain Voisin et sa chronique de la Ligue des droits de l'homme. Mais je vous le disais, aujourd'hui je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Géraldine Charron. Vous exposez actuellement au Musée École de la Périne. Votre exposition est visible jusqu'au 23 février. Le nom de l'exposition c'est René, ce qu'elle abrite. Peut-être pour commencer, pour directement entrer dans l'univers de cette exposition, comment est née cette idée et pourquoi avoir choisi ce personnage de René comme fil conducteur?
Oui. Alors en fait, c'est une idée d'exposition que j'ai depuis plusieurs années déjà. Et René, c'est une marionnette que j'ai construite, que j'ai construite il y a plus de 15 ans à peu près. Et donc elle m'accompagne dans chacune de mes expositions, mais elle n'avait jamais eu la vedette. Et donc en fait, c'est une marionnette que je rapièce régulièrement parce qu'en fait elle est construite un petit peu par plein de petits bouts textiles. Donc elle a un corps en toile de jute, elle a de la laine autour d'elle. Donc là par exemple pour l'exposition, j'ai rapiécé ses bras parce qu'ils sont en baleine de parapluie, parce qu'ils sont articulés, mais comme ils étaient un petit peu cassés, je les ai rapiécés. Et donc René, en fait elle s'appelle René depuis toujours, parce que je pense que c'est un vieux prénom qui rassemble beaucoup, qui est très connu aussi. Et il est masculin-féminin aussi, comme la marionnette, on ne sait pas, elle est un peu intergenre, on ne sait pas trop. Et en fait, Donc comme je travaille beaucoup avec les textiles anciens, je trouvais que ça rassemblait beaucoup les générations en fait.
Justement, on peut le dire, l'art textile occupe une place importante dans votre travail. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce médium-là?
Eh bien, c'est la souplesse du matériau, et puis aussi alors moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'histoire du textile, la mémoire des textiles anciens, à quoi ces textiles-là ont servi, et c'est toute une histoire de femmes en fait aussi, de transmission entre les femmes, tous les textiles, et ce qu'on peut faire avec, c'est très sensoriel en fait, le textile.
Sensoriel et poétique, on peut le dire finalement, vous emmenez le spectateur, le visiteur dans un univers poétique. Qu'est-ce que vous voulez que le spectateur ressente, enfin le visiteur ressente?
Oui. Eh bien, qui rentre un peu dans cet univers, oui, de René, qui est très décalé en fait. Donc dans la première salle de l'exposition, ce sont toutes ces bricoles du quotidien. Donc il y a ces chaussettes rapiécées, ces dépôts de confiture avec les chutes de mes tissus, il y a son livre de chevet, sa robe de chanvre. Sa robe de chambre, c'est une vieille robe de chanvre en chanvre que j'ai rapiécée et puis que j'ai brodée avec des tissus que j'ai récupérés, qu'on me donne. Et donc dans cette première salle, c'est vraiment son univers, la façon dont René elle s'adapte au monde qui l'entoure. Voilà. Dans la deuxième salle, c'est plus ses tapisseries, c'est un petit peu plus monumental. Il y a aussi des peintures. Et donc là, on est plutôt dans son entourage, dans ses paysages, son voisinage. Et dans la dernière salle, il y a des grandes tapisseries, un grand tapis aussi. Et là, on est plus dans son collectif, en fait. Son collectif à elle, comment elle s'arrange aussi avec les autres autour d'elle.
Votre pratique artistique, là, on parle vraiment de textile, mais elle mêle aussi... peintures, dessins, objets collectés. Comment est-ce que oui. tous ces matériaux, vous les choisissez ?
Eh bien, en fait, moi, je crée en fonction de ce que j'ai envie de raconter. Mmh. Donc, parfois, j'ai besoin du dessin pour raconter quelque chose. Parfois, c'est le textile. Parfois, c'est la peinture. Parfois, ça va être plutôt des croquis. Mais souvent, quand même, je mets beaucoup de textile et de fil parce que j'aime bien faire des choses avec mes mains. Je pense que c'est important pour moi de créer avec les mains, de rapiécer. J'aime bien, en fait. Je trouve que c'est très ludique.
Vous avez grandi entourée de femmes travaillant la laine. Et en quoi est-ce que ça influence particulièrement votre art ? Donc, effectivement, on voit cette présence ouais. aujourd'hui dans votre travail.
Oui, alors ma mère, ma grand-mère, mes tantes, enfin mes cousines, tout le monde tricotait, tout le monde était dans le textile, la laine. Et je pense que j'ai eu des morceaux de laine dès que je suis née dans les mains. Et j'en ai tout de suite fait des choses, en fait. J'ai tout de suite créé avec de la laine, des petits morceaux, des petits objets. Après, j'ai tricoté, beaucoup tricoté. Mais ça ressemblait jamais vraiment à grand-chose. C'était toujours décalé ce que je faisais, même petite en fait. En fait, j'arrivais pas à tricoter une écharpe qui ressemble à une écharpe. Enfin. Et donc voilà, je me suis mise à faire des objets un peu décalés. Quoi.
Décalé un peu comme ce personnage de René, on peut
voilà.
dire.
Voilà, c'est ça. Elle est décalée, elle fait ce qu'elle peut dans ce monde. Et elle est un peu maladroite, tout est un peu maladroit, tout est bancal. Tout ce que je fais est un peu bancal, mais voilà, c'est... René, c'est quand même aussi un peu moi, bien sûr. Donc, en fait, c'est dans mon imaginaire, quoi, tout ça.
À qui s'adresse cette exposition ? Est-ce que les enfants aussi sont
invités ? Ah oui, 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 tout à fait. C'est très... j'ai eu beaucoup... Là, ce week-end, j'ai eu beaucoup de monde, j'ai eu des familles. Donc, ah oui, oui, tous les enfants, les personnes malvoyantes, parce qu'elles peuvent toucher les textiles, les tapis. Et j'ai même fait aussi des œuvres vraiment pour elles. Parce que les peintures, comme elles ne peuvent pas toucher les peintures, les personnes malvoyantes, là, j'ai fait une peinture, enfin, qu'avec du textile, des personnages brodés. Donc, elles peuvent venir toucher tous les petits détails. Et les femmes viennent beaucoup et reviennent. Parce que comme il y a plein de petits détails, il y a des femmes qui sont déjà venues deux fois, qui vont revenir. Et ça leur rappelle un peu des choses de leur enfance. Enfin, elles me racontent ce qu'elles faisaient avec le textile, le linge...
Combien de temps ça vous a pris de préparer cette exposition et donc de plonger vraiment le visiteur dans l'univers de cette marionnette ?
Là, il y a dans l'exposition, là, il y a une dizaine d'années de travail quand même. Il y a des choses très récentes, les tapis sont beaucoup plus récents, et il y a des choses plus anciennes comme les tapis, certains personnages en tapisserie, c'est plus ancien. Mais en fait, c'est un tel travail, il y a tellement de pièces textiles qui sont très lentes à faire que c'est, oui, je dirais, c'est une bonne dizaine d'années quand même de travail. Après, dans la première salle, toutes les petites bricoles que j'ai faites pour René, ses chaussettes, par exemple, ses pots de confiture, tout ça, ça a été construit plutôt dans l'année. À partir du moment où j'ai eu mes dates au musée École de la Périne, l'idée de cette expo, après j'ai tiré un fil. Et puis tout était prétexte à création. J'aurais pu faire la chaise de René, j'aurais pu, voyez, j'aurais pu tout retransformer en fait. Ouais.
Est-ce qu'il y a un univers artistique qui vous a inspiré pour un moment créer ce type d'univers et ces techniques-là que vous utilisez aujourd'hui ?
Après, pour cette expo-là, non, mais en général, quand même, j'ai été très inspirée par l'art singulier textile et certains artistes. Par exemple, je pense à Jacques Trovitch qui a une tapisserie au musée des Arts Naïfs. Là, et il y a eu une rétrospective de son travail l'année dernière où ils ont rassemblé énormément de ses tapisseries. C'est que de la broderie où c'est plein de petites scènes de vie. Et voilà, ça je suis... j'aime beaucoup ce travail-là, et notamment aussi Joseph Gros-Garriga, qui a fait des tentures, des tapisseries gigantesques qui sont exposées au musée Jean Lursa à Angers. Et ça me parle beaucoup, oui. Parce que c'est, voilà, ça mélange le textile, mais en même temps, ça raconte quelque chose, une histoire, quoi. On est dans le récit, quoi.
Vous avez un atelier de poche ouvert au public, c'est là où vous travaillez, mais c'est aussi là où on peut découvrir finalement tout au long de l'année votre travail.
Voilà. Alors, il est situé au 4 rue Marceau, quartier Murat à Laval, quartier Saint-Nicolas, plutôt Murat, près de la cité administrative. Et c'est un atelier qui est mis à disposition par Medouane Habitat. Je tiens à le préciser parce qu'ils me sont d'une grande aide. Et donc, c'est un atelier dans lequel je suis tous les mercredis, jeudis, vendredis. Et bien sûr, Les gens peuvent venir me voir, m'apporter des tissus, parce que je récolte tout. Je n'achète pas de tissus. Je récolte tout, c'est que des tissus justement, qui ont une histoire récupérée, chinée au fil du temps.
Donc on peut venir à votre rencontre et effectivement vous apporter des tissus.
Oui. J'ai mes métiers à tisser, donc on peut me voir tisser. Ouais.
On peut le dire, votre art est souvent décrit justement comme narratif. Est-ce qu'il y a une histoire précise dans chaque œuvre ? Comment est-ce que vous travaillez dans la globalité de votre travail en général ? Une histoire pour une œuvre, là on a l'impression que c'est vraiment plus l'histoire du personnage, mais ouais. Habituellement en dehors de ce projet-là.
Moi je pense que j'ai quand même un fil conducteur sur toute mon œuvre. Elle est vraiment... Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est c'est la poésie du décalage. Quoi. Ouais. La poésie, qu'est-ce qui est décalé chez les gens et qui va rendre poétiques les choses. Et ça, je pense qu'on peut le retrouver dans tout mon travail. Après, non, c'est rare que je travaille une œuvre précise. Après, quand je fais mes tapis, quand même, là, en ce moment, je fais des grands tapis avec une technique, ce sont des tapis qui s'appellent des boucharouites, ça veut dire bout de chiffon en berbère. Et donc, c'est vraiment une technique de tissage des femmes du Haut Atlas avec des tissus recyclés. Et ça, c'est très, très long à faire. Donc, effectivement, chaque tapis raconte un peu une histoire. Voilà.
Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que l'art textile aujourd'hui n'est pas forcément très visibilisé. Est-ce que dans l'art contemporain aujourd'hui, vous trouvez que justement il trouve sa place ?
Oui. Alors il y a de plus en plus. C'est revenu en force. Hein. L'art textile est revenu là depuis quelques années. D'ailleurs, déjà on le voit parce que beaucoup de gens ont envie de se remettre à faire des choses. On voit bien le retour du crochet, du tricot, le retour du tissage. Donc déjà, il y a un retour quand même au fait main. Et il y a un peu plus de visibilité dans les musées. En ce moment, il y a deux très grandes expositions d'art textile à Paris. Donc ça commence à se remettre sur les cimaises des musées. Bon, c'est un peu encore timide, mais on voit quand même un engouement un peu. Ouais.
On voit que vous avez à cœur d'avoir cette transmission à travers votre art pour vous aujourd'hui dans une époque comme la nôtre avec les difficultés, l'aspect un peu anxiogène que tout le monde ressent. Quelle place a l'art aujourd'hui justement dans notre société et comment est-ce qu'elle peut-être justement nous apporter un peu de nouveaux imaginaires collectifs et peut-être de l'espoir ou de la transmission de ce qu'il y avait avant, aller tirer vers le beau.
Eh bien, alors l'art textile et le tissage en particulier, déjà c'est le geste, c'est l'éloge de la lenteur. Donc déjà ça nous ramène à des choses qui nous ancrent un peu dans une autre réalité et qui nous obligent forcément à voir, la société aujourd'hui comme différemment. Déjà c'est ce geste, cette lenteur déjà, c'est quand même, c'est pas rien. Et puis ensuite, je pense que... alors moi, je sais pas trop parce que je me protège beaucoup en créant, je me protège beaucoup de ce qui est anxiogène autour de moi. En fait, je suis un peu dans mon monde et dans ma bulle. Mais je pense que les gens, par exemple là, les gens qui viennent voir l'exposition, c'est comme une bulle d'air pour eux, une bulle de couleurs, d'air, parce que c'est en fait, avec très peu de choses, on peut recréer du beau, effectivement. Je sais pas trop.
Et cet état d'esprit aussi de récupération, qui est aussi quelque chose, finalement, dans l'époque dans laquelle on est, on se dit on récupère des objets, qu'est-ce qu'on en fait ?
Eh bien, ça, c'est essentiel. C'est essentiel d'être aujourd'hui dans la réparation, dans le... on pourrait ne plus rien acheter. Hein. On a assez produit pour des générations entières quand même. Hein. Au niveau des vêtements, je pense qu'il faudrait presque s'arrêter de produire. On pourrait s'habiller pendant plusieurs générations avec tout ce qui est déjà produit. Hein. Bon, après, voilà. Mais c'est sûr que c'est aussi un pied de nez à ce qui se fait aujourd'hui au monde capitaliste, hein. C'est sûr.
Cette exposition est visible, je le disais, donc au musée de la Périne depuis le 5 février et ce jusqu'au 23 février. Quand un travail comme ça est visible et présenté aux gens, est-ce que vous êtes déjà en train de penser à un autre projet ou est-ce que finalement il faut aussi que celui-ci se digère, se repose un peu ?
Alors une grosse exposition, non, je ne vais pas en faire tout de suite. Ouais. Par contre, aussi, j'ai un petit projet là, enfin, avec pour la Journée internationale des droits de la femme, où on va broder. Alors pas moi toute seule, bien sûr, mais on va broder sur des torchons le nom des femmes qui ont été tuées sous les coups d'un homme, pas que sur le coup d'un conjoint. Et donc, on va prendre le temps de rebroder le nom de ces femmes toute la journée pour pouvoir le soir du 8 mars les exposer, les tendre tous. Bon, ça va représenter, puisque c'est une femme tous les trois jours, ça va représenter quand même une trentaine de torchons brodés. Voilà. Donc ça, c'est important aussi d'avoir de la broderie, une broderie engagée, enfin aussi de s'engager à ce niveau-là. Et puis sinon, j'ai un projet de tapis. Je voudrais faire un tapis sur la mémoire textile du quartier Murat. J'aimerais bien que les femmes viennent déposer les textiles, ce qu'elles font déjà, mais récolter un peu leurs paroles, ce que je n'ai pas fait. Et je vois qu'il y a toujours une histoire, récolter au niveau documentaire leurs paroles et tisser ce grand tapis sur la mémoire textile. Ça.
Donc on peut appeler nos auditeurs, nos auditrices à venir à votre rencontre avec des histoires, pas seulement des tissus, mais des histoires qui les accompagnent. C'est ça. Et donc pour cela, il faut se rendre donc à l'atelier de poche. Vous pouvez redonner l'adresse si vous voulez.
4 rue Marceau, quartier Murat à Laval.
On peut également découvrir votre travail sur votre site internet. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux.
Oui, sur Instagram, Charon Atelier.
En tout cas, merci beaucoup à Géraldine merci d'avoir à été avec nous. Et donc, je le redis une dernière fois, le nom de cette exposition, c'est René ce qu'elle abrite. Et donc, elle est visible jusqu'au 23 février au musée École de la Périne. Merci beaucoup d'avoir
merci
commencé
à vous.
Cette
merci.
Semaine avec nous,
merci
Géraldine.
Au revoir.
Et donc, on va continuer votre émission quotidienne, l'agité du local, dans quelques instants. Mais avant ça, je vous propose une pause musicale. On écoute Claude In Extremis.
J'ai peur si tu restes. J'ai peur de tes gestes qui disent qu'on avance ensemble. J'ai peur de tes lèvres qui m'embrassent pour la millième fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'ai peur des SMS qui s'entassent depuis des années dans nos téléphones, c'est terrifiant. J'ai peur de l'appartement car il crie faut voir plus grand. Mais c'est quoi plus grand? Moi je suis à mon maximum. J'ai peur du temps qui trace et nous de c'est la mesure la plus précise de nos vies qui rétrécissent. J'ai peur des vêtements que l'on se prête de temps en temps comme si on n'était plus qu'une personne. Tout ça additionne, 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 tout ça additionne,
s'additionne, s'additionne, s'additionne tout, 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 s'additionne, s'additionne.
Nous voilà arrivés au moment de la rue de presse du Haut-Anjou. L'agité du local sur l'autre radio.
On commence le Haut-Anjou en criant au loup. La préfecture officialise la présence du loup qui fait sa petite balade en Mayenne. Il était aperçu dans la commune d'Alexin le vendredi 31 janvier dernier. Un éleveur retraité a remarqué son agneau sans vie à quelques mètres de son parc. Et au loin, il voit son loup arrivant vers sa proie. Marie-Aimée Gasparier, préfète de la Mayenne, a donc décidé immédiatement de classer en cercle 3, ce qui permet le financement des demandes d'aide à la protection des troupeaux ovins et caprins contre la prédation du loup. Sans oublier de rappeler auprès de l'ensemble des Mayennais également que le loup est un espèce protégée, à ne pas louper sur le Haut-Anjou. Continuons le Haut-Anjou en parlant cinéma, et alors je vous parle d'une salle avec des sièges en velours rouge. Non, je vous emmène en Anjou bleu, au cœur d'un plateau de tournage. Et oui, pendant 17 jours, le manoir Le Verger à Chambellay a accueilli toute une équipe de tournage pour le prochain film de David Roux. Son film devrait s'appeler La Femme 2. C'est une équipe de 54 personnes qui s'est mobilisée autour de ce projet auquel la commune de Chambellay s'est très vite associée. Le film est une adaptation du roman d'Hélène Lenoir, son nom d'avant La Femme 2. C'est l'histoire de Marianne, femme d'un riche industriel envié et admiré, épouse modèle et mère de famille dévouée proche de ses 40 ans. Elle se sent prisonnière d'un réseau d'obligations sociales, familiales et conjugales dans lequel elle s'efface. Un film sur l'émancipation féminine que l'on ne pourra pas découvrir sur le grand écran avant 2026. J'avais envie de terminer cette revue de presse du Haut-Anjou avec de l'amour, mais attention, je parle d'amour avec un grand A. N'oubliez pas que c'est la Saint-Valentin vendredi. Et pour cette magnifique fête, Château Gontier sur Mayenne met à disposition des panneaux lumineux pour transmettre vos mots d'amour à l'élu de votre cœur. Vous vous demandez sûrement comment Château Gontier se changera de les transmettre. Eh bien, c'est simple. Ils seront diffusés tout au long de cette journée particulière sur 5 panneaux lumineux de la ville. Alors que peut-être que vous étiez en panne d'inspiration pour le surprendre, voici en tout cas une piste parmi tant d'autres, laissez votre créativité opérer. Pour plus d'informations et découvrir l'ensemble des actualités locales, retrouvez le Haut-Anjou en kiosque chaque vendredi ou en version numérique sur haut-anjou.fr. Un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour rester connecté à notre territoire.
L'agité du local sur l'autre radio. Alors, je vous le disais, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Nicolas Moreau de Mayenne Culture pour sa chronique musicale mensuelle au menu. Aujourd'hui, Nicolas, ce sera rap.
Oui, car dans le 5-3, on fait du rap aussi, cher Margot. Aujourd'hui, donc, petit tour d'horizon du rap made in Mayenne avec trois artistes en pleine actualité, à commencer par Duro, dont le talent n'a d'égal que la constance et la persévérance. Depuis son premier EP en 2018, le duo castro-gontérien, constitué du rappeur Florian Duro et du beatmaker et producteur Nathan Aubry, alias NTH, le duo n'a cessé d'enchaîner les sorties, comptant déjà à son actif plusieurs EP et albums. Fin décembre dernier, le tandem publiait sans doute son meilleur disque à ce jour, Plus de ciel bleu, 9 titres impeccables où la production musicale, mêlant rythmique très actuelle et sonorités oscillant entre jazz et pop, sert idéalement les lyrics de Duro, plus apaisés et empreints d'une maturité nouvelle. Frappé par le décès de son père, le rappeur de 26 ans prend du recul, approfondit son introspection, comme sur Paradis, le titre qui ouvre ce nouvel album.
Y'a plus que ça à faire, Rapper encore plus ou rester dans la merde. Aucun regret si ça mène à ma perte. Je m'endors encore une fois sans finir mon texte. J'ai baissé les yeux, y'a mon frère qui m'appelle. À ce moment-là, c'est mon monde qui s'arrête. Le silence de l'hôpital, c'est l'enfer. Y'a toujours des visions qui viennent me hanter. Pour tout le monde, j'ai une grande gueule. C'est facile pour moi d'exprimer ce que je pense. Crois-moi bien que je cache tout. Que ma vraie douleur, elle est partout. À moi, à regard, j'en sais rien, mais y'a plus grand-chose qui me soulage, c'est dur. Devenir meilleur, c'est la finalité, mais comment avancer quand le chemin se fissure? Faut pas sous-estimer l'impact. T'es pas solide parce que t'as l'air intact. Mets de la pommade sur un cœur abîmé, ça retarde la douleur jusqu'à ce qu'il éclate. Je me remercie, je me suis bien entouré. Mais dès que je suis chez moi, c'est un calvaire. Les deux prochaines années vont dicter ma vie. Se tromper, c'est possible, mais je vais pas le faire. Je m'autoriserai pas l'échec. Sans cancer, il a jamais lâché, lui. J'ai reçu des vrais conseils de merde, mais tout ce qu'il disait, ça m'a servi. Papa, repose-toi bien, on se pètera sur FIFA au paradis. Si comptez qu'il y en a un, je sais pas, en attendant tu pleures sur mon parapluie. Les journées sont froides mais les projets sont immenses. C'est ma seule bouée, je m'accroche. C'est plus qu'une bouteille que j'ai jetée à la mer. Je suis confiant depuis que j'ai changé d'approche. Pour ça j'ai charbonné. Mental solide, j'ai une dalle de fou. Celui qui tire les ficelles fait la gueule. Il va me voir abandonner, je suis bien debout.
Difficile de choisir parmi les 9 titres qui composent le nouvel album de Duro, tant le niveau est homogène et high level. Impossible cependant de ne pas évoquer Plus Jamais Bleu, qui fait l'objet d'un clip incroyable, dont la qualité des images est quasiment digne du cinéma. Dirigé par le très très talentueux Paulin Gauthier, l'équipe du tournage a d'ailleurs rassemblé près d'une trentaine de personnes, décor bluffant, réalisation super inventive et créative, tout y est. Courez regarder ce clip, dont on écoute en attendant la musique.
Des concurrents qui ont pas fait le poids. J'ouvre la bouche et tout le monde pète un câble. Au calme, c'est pas un exploit. Si je performe, faut payer cher. Je l'aurais pas volé, c'est ce qui me différencie de tous ces amateurs de série B. Mis sur ton image, je mis sur le diamant que j'ai poli. Y'a que le travail dans la vie, les hypocrites vont pas lire. Je rêve aussi d'une vie tranquille, de vacances en Italie. Pour le moment, je suis au taf, ça fait brûler mon alim. On sacrifie, on fait du tri, on imagine qu'on fait du bruit. Y'a toujours un événement qui te ramène sur terre. J'évite les tirs, j'essaye encore même quand c'est gris. L'ambition est irréelle, faut être débile et ça me plaît. J'alterne le fond et la forme, c'est vu et revu. J'suis quand même vraiment blasé quand je les passe tous en revue. 4 sons en un an, tu te fous de la gueule de qui? T'es intérimaire dans ce rap, me parle pas de vertu. Mes tripes sont sur la table, si j'étais toi, j'connais mon pari.
Plus Jamais Bleu par Duro, qu'on va pouvoir bientôt voir en live, Nicolas.
Yes, ils seront sur la scène du 6x4 à Laval le 27 mars prochain, en première partie de Jeune Lion. En 2023, Duro apparaissait aussi en featuring sur un titre du premier EP de Gis, un jeune rappeur d'à peine 20 ans qui navigue entre Mayenne et Angers et qui vient de publier le 31 janvier dernier un nouvel EP de titres. On retrouve dans Fin du bal ce qu'on avait aimé dans son EP précédent, les qualités vocales et mélodiques de ce rappeur dont le passé de chanteur s'entend, sa sensibilité aussi et une certaine douceur mélancolique qui fait du bien dans cet univers très testostéroné qu'est parfois le rap game. Sur Fin du bal, il est parfaitement accompagné par NTH, seconde moitié de Duro donc, qu'on vient d'évoquer, et qui prouve ici une nouvelle fois ses qualités de producteur et beatmaker. Attention, ce morceau risque de tourner dans votre cerveau un moment.
J'ai même pas vendu, je pense déjà à la fin. Parce que je fais rien à moitié, j'ai jamais fait de feinte. N'essaie pas de regarder dans mon cœur, y'a trop d'obstacles. Comme dans un bateau perdu 10 ans après un naufrage. Je me suis fait confiance toute ma vie, me disant j'allais vivre longtemps. D'habitude je tiens mes promesses, mais je suis même plus heureux quand je suis content. En soirée j'ai pas un rond, je suis dans la merde jusqu'au cou. Et y'a quand je suis défoncé, je reste à la fête jusqu'au bout. Les musiciens sont payés à la fin du bal. Jusqu'à la dérive. Quand je fais pas de son, je suis en train de mettre.
aura pas duré longtemps. Comme si j'avais niqué la soirée, donc je devrais pas en faire autant. Je veux qu'elle se termine vite.
Fin du bal sur le nouvel EP de Gis, dont la cover parfaite est signée par le très doué graphiste Nippo, qui a aussi participé au clip de Duro que j'évoquais tout à l'heure et qui travaille régulièrement avec ADVM, le troisième et dernier artiste dont je voulais vous parler aujourd'hui, Margot.
Alors, qui est ADVM, Nicolas ?
Un très jeune rappeur, lui aussi, Adam Fernandez, de son vrai nom, a commencé à enregistrer ses premiers morceaux à 14-15 ans pendant que ses potes jouaient à FIFA, lui, bossait déjà. Comme Duro et Gis, qui l'expriment aussi souvent dans leurs textes, le Lavallois nourrit une obsession maladive pour l'écriture et le rap. Je passe ma vie à faire du son. Il faut dire qu'il a été à bonne école, papa était rappeur, avait un studio à la maison et l'a biberonné à NTM, IAM et autres ténors du rap hexagonal. Toutes ses influences s'entendent dans sa production hyper prolifique. Il compte déjà à son actif plusieurs albums et autres EP. Lauréat en 2021 des Émergences, dispositif qui détecte et accompagne les jeunes artistes en Mayenne. Il vient de signer un contrat avec la maison de disques Capitol et remplit déjà les salles parisiennes. Il sera à la Gaîté Lyrique à Paris le 25 avril prochain et devrait y jouer des titres de son nouveau projet, dont voici un extrait, Éteint le soleil.
Des doutes qui se traduisent en boules, des années qui se transforment en semaines. Je voulais tout vivre, c'était ma hantise d'être adulte. Je pensais que ça m'empêcherait d'avoir des rêves. Papa m'a appris à pas faire de vagues. Tiré de l'éducation de ceux qui ont rien à foutre là, de ceux qu'ils aimeraient voir partir. Maintenant c'est bon, le tout va bien intégré. Implanté dans un monde qui comprend, avec tout plein d'infos à la minute. On vit dans des écrans, dans des avis sans nuance. Le sage, il chuchote, les débiles ils hurlent. Sur les réseaux, tout le monde a la rage, frère. Je vois plus personne dans les rues. Et putain, moi, qu'est-ce que j'ai crié comme un bouffon. Si seulement il m'avait entendu, je serais pas là à passer ma vie. Dans des trous rares, raconter ma vie dans des morceaux de merde. Chercher à laisser une trace à tout prix, trop égocentrique pour capter qu'on parlera de moi au passé. Un artiste, un moldu qui se croit immortel. Je passe des mois sur des projets que j'aime plus au bout de deux semaines. Dans les yeux de mes rêves, je mets des étincelles. J'ai toujours pas réussi à y embraser une flamme. Mais putain, j'ai réussi à faire plus de bruit que les démons qu'il y a dans mon crâne. Mon frère, j'ai capté les étoiles, elles s'endorment jamais complètement, c'est en vrai. Un an que j'ai arrêté de taffer, un an jour pour jour que j'ai cru que j'avais percé. Je sors du lycée, deux ans après, je suis posé, y'a plus de négo. Ça a commencé à me reconnaître dans la rue, je me suis pris pour un héros. Elle m'a fait mal la gifle quand j'ai capté que j'avais juste fini l'étape zéro. Le grand rêve, par vivre au bled, les darons préparent leurs bagages. Quitter la France pour passer leur retraite, je serai bientôt tout seul ici. Bloqué sur le béton et sous le toit de mon 12 mètres carrés. A rien y faire sauf rapper, avec un truc dans le bide qui a deux doigts de l'exploser. Eh mais nique sa mère, ma bouche la garde, je vais en faire des abdos. Maman ça va, papa ça va, je suis fier, je suis plus un ado. On a fait des deux contrats, on investit tout, on les fera plus tard les cadeaux. J'arrive à l'âge où on s'en branle du nombre de bougies sur le gâteau. À la tête d'une société, j'avais même pas 20 piges sur le papier. Je suis le type avec les fausses qui peut se payer des vrais quartiers. Je préfère les caler dans le son, les caler dans le stud, les caler dans le. Y'a Twins au clavier, Hugo au fond qu'assistin. Je vois le futur chez le notaire, je vois le futur dans ma BM. Pendant qu'ils préparent leur prêt, tous les fils de pute de ma TM. ADVM, c'est un mythe, c'est un hustler, gros, c'est un modèle. Nouveau G Pro, on a même pris le temps d'éteindre le soleil.
ADVM éteint le soleil. Merci beaucoup Nicolas et à bientôt.
Merci Margot.
L'agité du local sur l'autre radio. Nous voilà arrivés au moment de la chronique de la Ligue des droits de l'homme avec Alain Voisin. Bonjour Alain, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler du sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui marque l'actualité, qui se tient à Paris à l'initiative de la France. Cet événement provoque de multiples expressions, ministres, presse, etc. Alors, toutes ces expressions nous présentent l'IA comme l'avenir, la mutation technologique qu'il ne faut pas rater, l'avenir inéluctable. Il faut s'adapter, nous adapter, adapter l'école, l'économie, les services publics. C'est comme ça. Nous n'aurions pas le choix. Or, des expressions réfléchies, élaborées, venant de collectifs d'artistes, d'intellectuels, d'associations, viennent alerter et faire réfléchir sur la portée des mutations promises comme heureuses grâce à l'IA. Parmi ces expressions, un texte fondateur, une coalition d'associations, d'ONG, de syndicats, c'est la coalition IATUS, dont est partie prenante la LDH. En fait, ces associations, syndicats, constatent que la promotion de l'IA, la mise en avant de ces technologies, les investissements considérables envisagés, la diffusion partout des technologies d'IA, qui ne sont que le prolongement et l'amplification puissante des technologies numériques existantes, se fait sans évaluation de l'existant, dans une fuite en avant dont il ne faudrait pas discuter le bien fondé. Or, l'émergence récente, seulement depuis 20 ans, des technologies numériques dans nos vies, dans la société, dans l'économie, doit être évaluée dans ses bénéfices, certes, mais aussi dans ses risques et dans ses effets négatifs sur les droits, sur le vivre ensemble, sur l'écologie et l'utilisation des ressources en énergie et matériaux. Cette évaluation n'est pas faite et il faudrait aller vers toujours plus de services et d'usages numériques. Se poser ainsi la question: de quoi avons-nous besoin? Quels services et moyens technologiques pour répondre aux défis que pose le réchauffement climatique, la relégation d'une part de l'humanité dans une misère insoutenable, insupportable? Il faut se poser une question: l'IA est-elle développée pour réduire les inégalités, garantir les droits humains, garantir un avenir durable à la planète? Eh bien non, et on voit déjà les effets de l'IA. Ces technologies ont déjà des conséquences très concrètes pour les populations les plus vulnérables et les plus discriminées, et elles portent largement atteinte aux droits humains. En s'appuyant sur des bases de données biaisées et en intégrant les préjugés de race, de genre, liés au lieu d'habitation, quartier riche ou quartier pauvre, l'IA, de fait, perpétue les stéréotypes, renforce les inégalités sociales. À cela s'ajoute le fait que le déploiement des systèmes d'IA s'inscrit dans le contexte de structures discriminatoires et inégalitaires qui existent dans les sociétés du monde entier. Le retour à ces technologies, souvent sur fond de politiques d'austérité, amplifie les discriminations dans l'accès à la santé, à l'emploi, aux services publics ou aux prestations sociales. On peut prendre un exemple et en témoignent les scandales ayant éclaté ces dernières années, des biais sexistes et racistes des algorithmes de santé, des profilages et discriminations des bénéficiaires des allocations familiales. Les biais des algorithmes peuvent avoir des conséquences dramatiques sur nos vies. Des allocataires de droit à la CAF, déjà parmi les personnes les plus défavorisées, se voient retirer brutalement leurs allocations sur décision d'un algorithme. Les IA prédictives se substituent à la police et les caméras dites intelligentes, greffées à des systèmes d'IA, surveillent nos déplacements dans les trains et dans les villes. Alors, les ressources en énergie pour faire fonctionner les IA sont en augmentation et pèsent dans le réchauffement climatique. Les matériaux rares nécessaires au système numérique sont l'objet d'exploitations humainement désastreuses en Afrique. Et avec l'IA, il faudrait toujours plus d'énergie, toujours plus de matériaux rares. Alors, pour nous dire le caractère inévitable du développement de l'IA, nous sommes sommés de l'accepter car nous serions dans une compétition mondiale entre les USA et la Chine, compétition dans laquelle il nous faudrait prendre place. Alors pour conclure, je vais citer le texte de la coalition IATUS, dont est membre la LDH, dont chacun pourra prendre connaissance sur notre site internet. La prolifération, donc je cite, la prolifération de l'IA a beau être présentée comme inéluctable, nous ne voulons pas nous résigner. Contre la stratégie du fait accompli, contre les multiples impensés qui imposent et légitiment son déploiement, nous exigeons une maîtrise démocratique de cette technologie et une limitation drastique de ses usages, afin de faire primer les droits humains, sociaux et environnementaux. Enfin, pour terminer, je voudrais signaler un avis récent du Conseil économique, social et environnemental. C'est la troisième assemblée de notre République, qui est intitulée « Pour une intelligence artificielle au service de l'intérêt général ». Et je le signale parce que la lecture de ce document est riche d'informations et porte une vue critique et argumentée sur le sujet. Chacun pourra donc s'y reporter utilement.
Merci beaucoup Alain. La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Géraldine d'avoir été avec nous. Merci à Alain, merci à Nicolas Moreau. Et merci à toi Maxime pour ta présence à mes côtés, autant en animation qu'en technique. Alors ça continue sur nos ondes.
Oui, la soirée commence avec Solénoïde à 19h. L'émission nous propose chaque semaine un voyage sonore à base de musique planante, cinématographique et ethnique.
Et ensuite,
la soirée continue à 20h avec la discothèque faite par Élise.
Merci Maxime. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. Nous serons avec Jean-Laurie, directeur artistique du festival à Travers-Champs à Cossé-le-Vivien, qui nous parlera de cette 25e édition. D'ici là, laissez ce lundi s'installer doucement, comme un café qu'on sirote sans se presser. Après tout, la semaine ne fait que commencer. Et puis dans cette lancée, s'il vous plaît, profitez-en pour faire le bien.
Bon, c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.